au travers de ton identité. Et ce matin, on a beaucoup parlé de notre identité. Ah oui, Élise a dit, on est enfant de Dieu. Ça, c'était mon deuxième point. On est enfant de Dieu. Incroyable. Et on va commencer par l'identité. Notre identité. Qu'est-ce que notre identité ? Moi, je n'ai pas décidé de venir au Mont Blanc, 1m86, cheveux blonds, yeux bleus. Je n'ai pas décidé ça. Vous voyez, dès le début, on est avec un corps et on n'a pas fait le choix de qui on va être. Tu es d'accord avec moi, Fred ? Tu ne savais pas qu'à ton âge, tu n'aurais déjà plus de cheveux. Et vous voyez, c'est des choses... c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et de la même manière, ensuite, on entre dans la vie et puis on a une éducation et on forme notre être intérieur. On forme notre être intérieur qui est avec notre caractère, avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec nos envies, avec nos rêves, avec nos désirs. Beaucoup d'entre vous ont beaucoup de rêves, des rêves pour leur avenir. Et puis, tout au long de notre vie, qu'est-ce qu'on fait ? On court quelque part et on recherche vraiment une satisfaction personnelle, de réussir dans la vie, de s'établir, d'avoir une famille. Et voilà, après, chacun selon ce qu'il a sur son cœur. Mais on court après cette satisfaction personnelle. Et finalement, on peut voir dans ce monde, certains arrivent à leur but, certains non. Certains sont malheureux, certains sont heureux. Et il n'y a pas de justice là-dedans. Encore une fois, on ne choisit pas. On fait des choix tout au long de notre vie et on a l'impression que tout nous appartient. On a l'impression que finalement, mes choix vraiment... Oui, tes choix t'appartiennent, mais ton corps t'appartient, ta pensée t'appartient, que tout est à moi, je gère tout. Et on vit avec cette notion qu'on maîtrise les choses. On a l'impression qu'on maîtrise tout et que finalement, y a des bons choix et des mauvais choix. Un bon choix t'amène vers de bonnes choses, un mauvais choix t'amène vers de mauvaises choses. Et finalement, dans tout ça, souvent, on oublie que finalement, certains vont chercher leur satisfaction personnelle au travers de leurs passions, donc les passions de la chair, le sport, ce qu'ils aiment, la nourriture, toutes ces choses-là. Certains par l'intellectualité, au plus ils vont avoir dans la tête, au plus ils vont connaître des choses, au mieux ils vont se sentir. Vous voyez, c'est différent, le travail, la réussite au travail. Mais on oublie souvent la troisième partie de notre vie, c'est l'homme spirituel. Et l'homme spirituel fait aussi partie de notre identité. Et ce matin, on ne va pas parler de notre identité d'homme et de femme sur cette terre, comment la société nous voit avec notre titre, menuisier, prof, mère au foyer. Vous voyez ce que je veux dire ? La société nous voit d'une certaine manière, mais comment Dieu nous voit ? Qui dis-tu que tu es en Dieu ? Est-ce que tu sais qui tu es en Dieu ? Et ce matin, Élise nous a déjà donné un élément de réponse. Nous sommes enfants de Dieu. Et ça fait réellement partie de notre identité. Mais au final, dans notre vie, 90% de notre temps, on l'utilise pour manger, pour assouvir nos besoins physiologiques, biologiques. On mange, on boit, on travaille, on s'occupe de nos plaisirs. Et il y a très peu de temps pour l'homme spirituel. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Et Dieu nous a parlé ce matin. Mettez-moi à la première place. Accrochez-vous à mes promesses. Appelez ma gloire, que ma gloire descende. Et il y a vraiment des promesses là. Si on a entendu ça ce matin, ça vaut le coup quand même de se remettre devant Dieu. Et ce matin, cette prédication, c'est pas vraiment une prédication en tant que telle. Je vais prendre beaucoup de points de ce qu'on a entendu ce matin et beaucoup de choses, prédications qui ont eu lieu ces dernières semaines. On a eu Sandy la semaine passée. On a eu, c'était qui la semaine d'avant ? Mon père, je pense. Et on a eu le samedi Esteban. Ces trois choses-là, Dieu nous a vraiment parlé, a parlé à l'Église. Et il faut savoir s'arrêter et dire, OK, Seigneur, tu nous as dit ça, 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 ça. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ça marche ? Donc, la base de notre identité spirituelle, cette base-là, c'est fondée sur, elle est fondée sur notre foi et sur notre espérance. Sur notre espérance en quoi ? En Jésus. Mais sur notre espérance et notre foi aux promesses de Dieu. Et une des plus belles promesses de Dieu, une des promesses sur laquelle est basée notre vie, et on l'a dit ce matin avec, Élise l'a dit ce matin avec la Sainte-Seine, c'est quoi ? C'est Jean 3,16. Est-ce que tu peux nous le lancer, Pierre ? Tout le monde le connaît par cœur. Qui peut me réciter Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Alors moi, je commence ma prédication avec ce verset-là, mais on l'a déjà vu. Dans les chants, on a fait la Sainte Cène. Moi, j'étais épaté ce matin. Et donc, on peut voir que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a aimé le monde. Dieu t'a aimé. Et il ne change pas. Il est fidèle. Il t'aime toujours. Et ça, c'est déjà une promesse exceptionnelle. Waouh, moi, je lis ce verset-là, je me dis Dieu m'aime. Ça fait partie de mon identité spirituelle. C'est que Dieu m'aime, c'est une base, c'est la base. Et parce qu'il nous a aimés, il envoie son Fils. Afin que quiconque croit, moi, le petit blond aux yeux bleus d'1m86, vous voyez ce que je veux dire ? N'importe qui, quiconque, celui qui a des oreilles pour entendre, va croire en ça. Et qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans ce verset-là, c'est un simple verset, tout est résumé. On parle de la vie éternelle, on parle d'un Dieu créateur qui nous a aimés, qui a aimé le monde, qui a envoyé son Fils, qui s'est fait homme. Et qui, ceux qui croient, ceux qui mettent leur espérance en lui, ils ne périssent pas. C'est-à-dire qu'il y a deux chemins, la mort ou la vie. Il n'y en a pas 25. Ça marche ? Ensuite, déjà là, il y a une introspection à faire. On a parlé de l'homme charnel et souvent, on peut remarquer que certaines personnes ne décolle pas dans leur homme spirituel, dans l'être intérieur spirituel, parce qu'il y a déjà des problèmes dans l'homme charnel. On ne s'assume pas comme on est. On a l'impression que, oui, mon corps m'appartient, je n'aime pas mon corps comme il est, et certaines personnes, rien que là, sont bloquées, ils n'arrivent pas à venir devant Dieu, parce qu'ils ont un complexe. Et ils en veulent à Dieu, parce que, mais pourquoi tu m'as fait comme ça ? Ils ne comprennent pas, il y a déjà une incompréhension. Et cette incompréhension t'empêche d'aller vers Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et des fois, c'est intellectuel, parce que notre tête fonctionne intellectuellement et il y a un blocage. Vous me suivez ? Alors, je vais déjà prier ce matin. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici dans ce lieu. On veut aller plus loin, Seigneur. Et tu vois que parfois, Seigneur, on a une mauvaise image de toi. Parfois, on te voit comme un gendarme. Parfois, on te voit comme quelqu'un qui nous met des prescriptions qu'on doit suivre. Et finalement, ces prescriptions, on doit galérer pour les suivre, Seigneur. C'est difficile. Mais ce n'est pas ce que nous dit ce verset, Seigneur. Ça nous dit que tu nous as aimés. Et je te prie, Seigneur, de restaurer, Seigneur, la vision de chacun qu'il a de lui-même, de son estime de soi, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, ce matin comprendre qu'ils ont une identité spirituelle et que c'est celle-là qui est la plus importante, Seigneur. Seigneur, je brise, Seigneur, maintenant, toute pensée négative sur soi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a cette notion de dire, « Ok, Seigneur, qui je suis en toi ?» Et j'aimerais te dire que finalement, l'homme charnel et l'homme intellectuel, c'est une façade. Ce n'est pas ce qui est important. Et parfois, on passe beaucoup de temps à entretenir notre façade et très peu l'homme spirituel qui est à l'intérieur. Et quand tu passes des moments... Moi, j'ai fait beaucoup de travaux. Des fois, des travaux, ça suscite une frustration. Tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu sais comment tu dois le faire, tu n'arrives pas à le faire et tu es frustré, tu es bloqué pour le reste. Tu n'arrives pas à faire autre chose parce que ta plomberie ne va pas, il faut que tu règles ta plomberie. Vous comprenez ? Et des fois, on est centré sur nous, on est centré sur nos problèmes. Il y a Dieu, hein, Dieu est là, on dit que ce soit la volonté de Dieu dans ma vie. Mais on est centré tellement sur le problème que on croit en Dieu, mais Dieu n'y agit pas. Et Dieu, il ne se passe rien en fait. Il ne se passe rien, c'est juste intellectuel. Alors, on va prendre le verset suivant. C'est Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau. Alors, c'est la suite, c'est ce que Élise a prié ce matin. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais avant ça, il y a la notion ceux qui croient, ceux qui ont reçu. On a besoin de recevoir. Et recevoir, c'est, on a parlé aussi, je ne sais plus qui a dit ça, mais que c'est un don. C'est Sandy, je pense, qui a dit. C'est un don. C'est quelque chose qui nous est donné, d'accord ? Et souvent, quand on reçoit Jésus, il faut savoir que vous devez recevoir. On reçoit Jésus dans notre vie, mais on le reçoit de deux manières. On le reçoit comme notre sauveur. Ça veut dire quoi qu'il est notre sauveur ? Ça veut dire qu'il nous a libérés du péché, on l'a dit ce matin. Et ça engendre quoi ? Ça engendre une compréhension des choses et ça t'amène à une repentance. si tu reconnais Jésus comme ton sauveur, c'est que tu reconnais que tu étais perdu. Seigneur, tu ne peux pas le reconnaître comme ton sauveur. On est d'accord. Mais une fois que tu l'as reçu comme ton sauveur, tu as besoin de le recevoir comme quoi ? Comme Seigneur. Et ça, c'est encore quelque chose d'autre. Et je reviens à la prédication de Sandy la semaine passée. Le manteau du salut. Tu reçois Jésus et là, tu reçois le manteau du salut. Mais il ne faut pas t'arrêter au manteau du salut. Maintenant, Seigneur, je veux ton règne sur ma vie. Je veux que tu viennes régner dans ma vie totalement. Et je reviens à l'intercession de ce matin. Que Dieu prenne toute la place dans ce lieu ce matin. Ton règne dans ma vie, tu dois reconnaître que tu étais perdu et tu reconnais ensuite que Dieu règne sur ta vie. Et c'est là où je reviens à ce que je vous ai dit ce matin. Cette impression qu'on a de contrôler les choses, que notre corps nous appartient, que notre vie nous appartient, que tout est pour nous, que tout ce qu'on fait, c'est nous qui le décidons, c'est plus vrai. Parce que quand tu dis à Dieu, viens dans ma vie, lui, il vient dans ta vie. Et tu lui dis, je te donne ma vie. Donc là, tu lui donnes ta vie, mais elle ne t'appartient plus. Mais la réciprocité est vraie. C'est-à-dire que tu lui donnes ta vie, mais lui aussi t'appartient à toi. La seule chose qui t'appartient maintenant, ce n'est plus ton corps, ce n'est plus ta volonté, ce n'est plus ce que tu as envie de faire, c'est Dieu t'appartient maintenant. Moi, mon Dieu m'appartient. Et là, les choses changent. Tu n'es plus en train d'entretenir ta façade à ta manière. Tu dis, Dieu, tu m'appartiens, plus rien ne m'appartient, je t'appartiens, maintenant on va travailler ensemble. Et ça, maintenant, on arrive à la suite du verset. Est-ce que tu peux le reprocher, Pierre ? Qui vous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Avant, tu n'avais pas ce pouvoir de maîtriser les choses dans ta vie réellement. Tu faisais tes choix, il y avait un échec ou quelque chose de bon. Mais le pouvoir de devenir ses enfants, c'est que maintenant tu es son enfant, mais tu as le pouvoir de dominer sur ce qui te dominait avant. Parce que avant le péché dans ta vie, c'est lui qui dominait. Toi, tu as l'impression que Satan te ment et te fait croire que tu maîtrises les choses. Mais ce n'est pas vrai, tu ne maîtrises rien du tout. Et là, quand tu dis à Dieu, viens dans ma vie, tu reçois le pouvoir d'avoir son autorité pour dominer sur les choses dans ta vie. Vous comprenez ? Et alors, devenir le pouvoir, d'accord ? Ensuite, j'ai commencé à quelle heure, s'il vous plaît ? 10, ok, déjà 15 minutes. Ok, alors... Verset suivant, Pierre, s'il te plaît, c'était le verset dans Matthieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans quoi ? Dans le royaume des cieux. Donc, on entend parler de quoi ? D'un royaume des cieux. Intéressant. Voilà, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je reviens juste sur la notion petits-enfants. Il y a deux notions dans le fait d'être des enfants. Et on nous appelle souvent dans la Bible à être comme des enfants. Mais la première notion, c'est d'être un enfant dans l'attitude. Qu'est-ce que ça veut dire, dans notre attitude ? Dans notre attitude, ça veut dire venir vers Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur honnête. On ne ment pas à Dieu, on vient simplement vers lui et on lui abandonne toute chose. Dans l'attitude, nous devons être comme des enfants. Et quand tu es trop focalisé sur ta façade, tu as du mal à être comme un enfant devant Dieu. Parce que tu as envie de régler tes problèmes tout seul. Ça marche ? Ensuite, dans l'attitude, et le verset précédent, c'est plus « vous devenez mes enfants ». Donc, ce n'est pas une attitude, c'est un trait de caractère de ton identité spirituelle. Ça veut dire qu'on parle de ton héritage. Maintenant, tu as hérité du fait d'être enfant de Dieu. Et si tu hérites du fait d'être enfant de Dieu, tu hérites des conséquences de ça. Ça veut dire que tu participes, la Bible nous dit que nous sommes quoi ? Co-héritiers du royaume de Dieu. Co-héritiers du royaume de Dieu avec qui ? Avec Christ. Et Christ, quelles sont les œuvres qu'il a faites ? Il a fait des œuvres exceptionnelles sur cette terre, non ? Et nous sommes co-héritiers, ça veut dire que nous bénéficions du même héritage que lui. Et j'ai aimé ce qu'a dit Eric ce matin, qui a dit que quand on rentre dans ce cercle vicieux là, ben on passe à côté de ça. On passe à côté de notre héritage. On est là, on a l'impression qu'on est des bons chrétiens, mais on est constamment centré sur notre vie. Notre héritage est là, avec les promesses de Dieu, et on n'en bénéficie pas. Et on a dit, Seigneur, que ta gloire descende. On a dit, Seigneur, que tu viennes, que ta présence vienne dans ce lieu, que tu puisses envahir. Et ben, on n'est pas envahi du tout là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là où il faut savoir se remettre en question. Alors, la suite. Matthieu 28, versets 18 et 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai pris que des versets qui sont très connus, mais qui nous parlent vraiment de notre identité. Qui nous sommes ? Voilà, on est enfants de Dieu, nous avons un héritage, on doit avoir une attitude devant Dieu pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, Jésus nous dit « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et là, on commence à rentrer dans notre destinée. Quelle est notre destinée ? On devient enfant de Dieu. Et là, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK. Et certains chrétiens disent « Mais moi, je ne suis pas appelé à ça. Mais moi, ce n'est pas pour moi, tu comprends, ce n'est pas dans mon caractère. Mais finalement, moi, l'évangélisation, tu comprends, je ne suis pas à l'aise. » Et on reste buté sur des façons de faire, vous voyez, aller dans la rue, parler à des gens. Ce n'est pas ça, c'est qu'on est tous appelés à ça. C'est-à-dire que si toi, ton caractère n'est pas prêt à ça, bah, Dieu, il veut te changer. Parce que c'est très clair. Si tu acceptes de devenir son enfant, si tu acceptes maintenant qu'il soit ton Seigneur, si tu acceptes de lui donner ta vie, tu acceptes le package avec. Sinon, tu ne vas pas vivre dans les promesses de Dieu et tu deviens un chrétien frustré, qui ne vit pas grand-chose avec Dieu, qui pleure tout le temps parce que « Seigneur, j'ai des combats, je suis souvent frustré. » Et tu es dans ce cercle vicieux dont nous a parlé Eric. Voilà, tu es là. Et tu es à côté. Et moi, en ce moment, je me suis vraiment remis en question sur ça quand j'ai entendu toutes les prêches qu'il y a eu ces dernières semaines. On nous a parlé des vêtements. Quelle prédication inspirée la semaine passée. Les vêtements de Dieu. Est-ce que vraiment on le sait qu'on a le salut ? Est-ce qu'on vit avec vraiment ? Moi, ma femme, ce matin, elle était un peu fâchée sur son lave-vaisselle. Mais je lui ai dit, mais tu perds ton temps avec une machine. Vous comprenez ? Ce sont la vaisselle ne fonctionne plus. Donc j'ai essayé de réparer, ça m'a énervé aussi. Ça ne marche pas. Et j'ai dit, mais pourquoi je perds mon temps là ? Tout ça, c'est matériel, vous voyez ? Donc, on est enfant de Dieu et on a une mission. Qui que ce soit, qui que nous sommes, qui que nous soyons, voilà, on doit avancer. Verset suivant, Luc 9, verset 1, on va voir quand Jésus a envoyé ses disciples ce qu'il leur a dit. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Notre destinée, c'est ça. On n'a pas besoin de rentrer dans de la théologie, c'est très clair. C'est clair, quoi. Et vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. On est parti à Mougy. Et j'ai témoigné hier de ça au groupe de jeunes. Ça faisait un moment qu'on sortait de nos travaux, j'étais fatigué dans mon corps, vraiment. Fatigué dans mon corps, fatigué dans ma tête. Spirituellement, je n'avais rien lâché, vous me connaissez. Ce n'est pas moi qui vais annuler une réunion parce que je suis fatigué. Et j'avais l'impression de donner tout le temps, Je dis, Seigneur, mais renouvelle-moi. Et je suis venu à Mougy avec ce cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles. Le cri de mon cœur, c'était le premier chant qu'on a fait ce matin. Seigneur, renouvelle-moi. J'ai besoin de sentir ta présence. De plus être dans ce cercle qui, voilà, on fait des choses, mais on a besoin de toi, Seigneur. Et j'arrive à Mougy, super. Avant, il y a eu des combats, les enfants malades. On était en train de se dire, mais on ne va pas aller à Mougy. Il y en a un ou deux qui va rester. Et moi, j'étais en train de me dire dans mon cœur, je vais laisser aller ma femme. Elle est tout le temps avec les enfants. Moi, je vais m'occuper des enfants pour qu'elle profite. Vous voyez ? Et Satan était en train de voler cet endroit. L'endroit où je voulais aller pour être renouvelé. Vous voyez ? Et je dis à chaque... on a dit, Seigneur, on va par la foi laisser vos enfants malades, c'est compliqué quand même. Vous n'avez pas envie, hein. Vous dites, bon, je pars 3 semaines, ça fait un peu parent indigne. Et on a dit, Seigneur, non, on va par la foi, on y va. On y va, on prie, on demande à Dieu pour les jeunes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit de recevoir le Saint-Esprit. Alors que je priais pour quelqu'un, j'ai été renouvelé dans mon Saint-Esprit. Et je suis reparti avec vraiment un renouveau dans ma vie. Là, j'avais vécu quelque chose avec Dieu. J'arrive à la maison, les enfants sont malades. Je vous ai raconté il y a 2 semaines le témoignage. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Ils sont encore malades. J'ai pris le thermomètre, j'ai prié, et le thermomètre descendait. Je vous ai témoigné il y a 2 semaines. Anna était guérie. En moi, tout de suite, ma foi, elle est animée parce qu'elle est vivifiée par l'Esprit de Dieu. C'est plus intellectuel, croire en la guérison, mais pas le vivre. C'était je crois, mais je vis. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux prendre autorité sur chaque situation dans ma vie. Que ce soit la maladie, que ce soit des fois quand nos têtes, elles sont pas concentrées sur Dieu. Que ce soit, je veux mener un combat dans ma vie de chaque minute pour être ton enfant vraiment et pour commencer à voir ta gloire. Vous pouvez vous demander à Chanel. Que ce soit une frustration, que ce soit une colère, que ce soit n'importe quoi, les petits trucs du quotidien, que ce soit une maladie, je dis maintenant c'est non. J'ai l'autorité dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, il écrit que Jésus, ayant appelé les 12, leur donna force et pouvoir. Je suis un 12. Moi, je suis dans les 12. Est-ce que vous êtes dans les 12? Moi, j'ai décidé d'être dans les 12 maintenant. Et ensuite, Esteban y est venu et il nous a dit, mais vous vous rendez compte? Vous êtes des nouvelles créatures. Et là, encore une claque, je dis, ah, je suis une nouvelle créature. C'est vrai, je dois vivre comme une nouvelle créature. Il faut que ça bouillonne en moi. Et Sandy remet une couche la semaine passée. Mais mettez les vêtements de Dieu. Il vous a donné des choses. Allez les saisir par la foi. Et ce matin, j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu se trouve dans ses promesses. Ça ne sert à rien de chercher partout la volonté de Dieu. Que ce soit pour les choses matérielles. Des fois, il y a un petit problème pour notre lave-vaisselle. On va se demander, c'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que je dois aller en acheter un? Ou est-ce que... Et on est là, on part, on met la volonté de Dieu partout. La volonté de Dieu, elle se passe dans ses promesses. Il m'a dit que j'avais le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir sur toute chose maintenant. J'ai le pouvoir sur ma voiture. J'ai le pouvoir sur le temps. Moi, c'est clair maintenant pour moi. Vous comprenez? Et des fois, ça marche pas parce que la foi n'est pas là. Mais je veux vivre le pouvoir sur toute chose. Est-ce que vous avez envie d'avoir le pouvoir sur toute chose? L'autorité sur les choses. Et moi, j'aimerais vous dire que ce matin, il faut que les circonstances de ta vie entendent que tu es enfant de Dieu. Il faut que chaque désillusion que tu as eue et déception que tu as eue entende que tu es enfant de Dieu. Qu'elle puisse reconnaître l'enfant de Dieu qui est en toi et qu'elle commence à fuir. On dit que la lumière chasse les ténèbres. Ce matin, la lumière veut chasser les ténèbres, simplement. Il n'y a pas à réfléchir. Il faut entrer dans cette autorité. Il faut entrer dans notre héritage et vivre les choses que Dieu nous appelle à vivre. On suit ? Ouh, Seigneur, touche-nous ce matin encore. Donc là, on est encore dans un. Finalement, on est encore dans une conception chrétienne de tout le temps être centré sur soi. Et puis, on demande à Dieu de vivre avec nous. On fait des tests un peu par-ci, par-là. Seigneur, je suis malade, libère-moi. Mais la réalité, c'est que Dieu a envoyé les 12 pour qui ? Pour les autres, pas pour eux-mêmes. Il les a enseignés, il leur a dit, maintenant, il leur a changé leur nom. Il a dit, maintenant, toi, tu es un nouveau nom, tu es une nouvelle personne. Tu vas vivre, tu vas copier ce que je fais. Je te donne le pouvoir pour les autres. Donc au début, Dieu nous travaille, Dieu nous transforme, Dieu nous change, Dieu nous montre qui il est. Mais après, on ne doit pas rester là. On est pour les autres, pour la vie des gens. Tu sois jeune, plus vieux, dans ton travail, n'importe où. Ça va, Michel ? T'as l'air triste, là. C'est une bonne nouvelle hein, que je t'annonce. Oh, Seigneur ! Alors, on va prendre le verset suivant, Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que ça vous dit, ça ? La foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que les œuvres sont issues de notre foi. Il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas faire les œuvres sans la foi. Ce n'est pas possible. Mais que quand tu vas t'amener vers la maladie, l'œuvre de Dieu, c'est quoi ? C'est que Dieu a chassé la maladie. D'accord ? Jusque-là, on se comprend. Maintenant, il faut que ta foi soit suscitée pour que ce qui va se passer, ce que tu vas manifester, c'est la guérison. D'accord ? Et ça, quel que soit le domaine de ta vie. Dieu a fait des guérisons. Il a restauré le cœur brisé. Jésus, cœur brisé, guérison. Il allait manger avec n'importe quelle personne. Il a parlé avec les plus érudits et les plus pauvres. Il est allé vers ceux qui étaient délaissés. C'était ça son ministère. Et nous, on est appelés à faire le même ministère. C'est pas parce que je me sens pas, que moi, vous savez, finalement, j'ai du mal à parler. Je suis un peu timide. Vous voyez, et des fois, on se complaît dans notre attitude. On se complaît dans le fait qu'on n'aime pas trop ça, donc on ne veut pas trop mettre le pied dedans. Vous me suivez? On n'a pas trop envie. Et on vit notre vie chrétienne. On vient au culte de dimanche matin. Et des fois, vous êtes là face à un malade dans la rue. Votre cœur est en train de bouillonner. Et, ah non, non, Dieu, il ne va surtout pas guérir ici. Hein. Et vous partez. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, on a tous vécu des choses comme ça. Vous sentez que vous devez libérer une parole de vie pour quelqu'un et vous n'êtes pas préparé à ça. Et on se complaît de vivre comme ça. Et puis, le dimanche matin, on proclame des grandes choses. Et arrivé le lundi matin, on a déjà tout oublié. Et c'est pour ça que ce matin, je vous rappelle tout ce qui a été dit ici. C'est pour qu'on soit des nouvelles personnes, des nouvelles créatures, qu'on sache mettre le manteau qu'il faut mettre, que l'esprit puisse nous envahir, qu'il puisse nous utiliser réellement. Ça marche, Jason ? Alors, Jean 14, versets 12 à 16. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il n'en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça, c'est une promesse exceptionnelle. On s'arrête là. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qui croit en Jésus ? Moi, je crois en Jésus. Et il me dit que je vais faire les œuvres que lui a faites. C'est-à-dire que je dois accepter de faire ces œuvres-là. Donc, on va prier. Seigneur, je te prie déjà, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont du mal ce matin, Seigneur, à faire les œuvres que tu as faites. Seigneur, qui résonnent et Seigneur, qui ont des blocages. Seigneur, que tu puisses libérer tout blocage ce matin. Que vraiment ta parole pénètre. Que ce ne soit pas intellectuel, Seigneur, mais vraiment que tu puisses, qu'on puisse entrer, Seigneur, dans cette facilité, Seigneur, de se dire, ok, là, t'as ça à faire, je vais le faire. Je me mets à ta disposition, Seigneur. Amen. Cette notion de se mettre à la disposition de Dieu, parce qu'en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Tu sais, c'est réciproque. Si tu crois vraiment en Jésus, tu fais les œuvres qu'il a fait. Moi, des fois, je me dis, en ce moment, est-ce que je fais les œuvres de Christ ? Je crois en lui, mais est-ce que je fais les œuvres ? Et comme elle disait Sandy la semaine passée, est-ce qu'on se dit tous les matins, je suis sauvé ? Une fois, on oublie qu'on est sauvé. Hein. Le quotidien, il nous a rattrapés. Hein. Vous avez un gros dossier à rendre le lundi matin, et le quotidien, il t'a bien rattrapé. T'as oublié que t'étais sauvé tout le week-end. Et du coup, pendant 2 jours, t'as pas fait les œuvres de Christ. Et j'aimerais te dire que on entretient beaucoup notre façade, mais prenons plus de temps à entretenir notre relation avec Dieu et lui va s'occuper de notre façade. Il va s'occuper de notre caractère, il va s'occuper de nos problèmes, il va s'occuper de nos finances, il va s'occuper de tous les soucis qu'on a devant nous et on sera béni. Je vous redonne un témoignage. Vous savez tous que c'est Pierre qui me demande toujours que je puisse témoigner par rapport à notre maison. Donc Pierre, c'est pour toi ce matin, spécial dédicace. Non, mais on a vraiment été bénis. Et on s'est lancé dans quelque chose. Je pense que Dieu avait voilé mes yeux sur l'ampleur du travail. Parce que j'avais pris un mois de congé pour faire une maison complète. J'avais pas de sous. J'avais pas de matériel. Il n'y avait rien pour moi. J'avais une femme et des enfants. Et alors, on va là-dedans. Et puis, Dieu commence à bénir. On a vu des miracles. On a vraiment vu des belles choses. Jason est témoin du miracle de la benne. Hein. Et il y avait vraiment des belles choses qui se passaient. Mais, quelque part, on s'est lancé dans ça. Et puis, voilà que j'arrive à la fin de mon mois et je suis très loin du compte. Et Vincent m'appelle. Vincent, c'est mon patron. Comme ça, tout le monde le sait. Et Vincent m'appelle. Il me dit, ok, bah, je vais te donner encore 3 semaines. Je dis, alléluia. Arrivé au bout de 3 semaines, c'est toujours pas fini. Vincent me rappelle, je vais te donner encore 3 semaines. Je dis, alléluia. Vous avez déjà eu un patron comme ça, vous ? Donc, j'honore mon patron ce matin, parce qu'il a un grand cœur. Et la troisième fois, là, je dis, bon, faut pas abuser, je vais retourner travailler, parce que il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, des chantiers. À chaque fois, vous pouvez demander à Chanel, j'étais prêt à retourner travailler, pas de problème. On était dans les travaux et tout. Le travail revient, il faut que j'aille travailler, j'ai un engagement. Et la troisième semaine, il se déplace pour voir la maison. Et là, il vient voir, il dit, bon, je te donne encore 3 semaines. Et puis on est entré dans il y a vraiment eu une bénédiction à la base, vous voyez. Et c'était incroyable. J'ai perdu ma pensée, je m'excuse. Ah oui, spéciale dédicace à Pierre. Donc, on entre dans cette maison. Mais finalement, les 3 semaines, il m'avait donné en chômage technique. D'accord ? Mais chômage technique, je ne vais pas tout vous expliquer, j'ai eu des problèmes de paiement. Donc, je n'étais pas payé de mes salaires. Donc, c'était dur. On est arrivé dans notre maison, mais la vie était difficile. Jusqu'il y a 2 semaines, 3 semaines, on n'avait plus un sou. Mais quand je vous dis plus un sou, encore une fois, ça faisait deux fois pendant ces travaux, plus un sou. Plus un sou au point qu'on comptait les patates, qu'on comptait les bouts de pain pour dire il restera ça de pain pour demain matin. Vous voyez ? Et puis moi, je disais, bah, je vais manger un peu moins pour laisser pour les enfants. Donc c'était, voilà. Après, c'est pas la mort. J'appelle mon père, j'appelle ma mère, j'appelle ses parents, ils vont venir nous donner du steak. D'accord ? Mais on a une fierté, hein, on a une orgueil, hein, on a un orgueil qui... Ah ! Et puis, on était là avec Chanel, on a dit maintenant, c'est faut vivre la gloire de Dieu. Là. Faut qu'on on va prier parce que je lui ai dit, humainement parlant, je ne peux pas travailler plus, je ne peux pas créer de l'argent. Vous savez, il y a mon salaire qui va tomber, il est ce qu'il est, on ne peut pas créer des choses. Et puis voilà que on prie, on dit Seigneur maintenant, on prend autorité sur nos finances. C'est toi qui nous as donné cette maison. Il y a une promesse derrière ça. On a commencé à déclarer. On était dans notre salon. Seigneur, le soir même, quelqu'un sonne à notre porte et nous donne 100 euros. J'avais à cœur de vous donner 100 euros. C'était pour faire ses courses pour la semaine. 3 jours après, encore une bénédiction. Un gros montant. D'accord ? Et la semaine passée, on nous dit, on vous donne 2000 euros pour finir vos travaux. Et il y a la gloire de Dieu qui commence à se manifester dans nos finances. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas pu les créer. Il n'y a que lui qui peut faire ces choses-là. Donc, Olivia, ta maison, tu dois prendre autorité pour ta maison. Elle va se vendre. On peut vivre des choses concrètement, matériellement. Mais là, c'est pour nous. Mais ensuite, il faut vivre les choses pour les autres. Voir la gloire de Dieu pour les autres. Il n'y a pas que pour nous. On se suit ? Donc, le verset, on continue. Donc, voilà, spécial dédicace pour Pierre, c'est fini. C'est bon ? Alors, et tout ce que je vous demanderai, en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le fait que je témoigne comme ça, ça glorifie le Père. Si je témoigne pas, je glorifie pas le Père. Parce que c'est lui qui a fait les choses. Et c'est ce qu'on a vécu là. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce que vous avez saisi une promesse. La promesse est donnée par Dieu. S'il donne cette promesse, c'est que c'est sa volonté. Donc vous vous associez à cette promesse. Maintenant, vous commencez à la proclamer dans votre vie. Au début, il faut la proclamer à votre bouche pour que votre tête entende, que votre âme commence à l'accepter. Parce que votre âme, elle est des fois fermée. C'est des fois une coquille comme ça. Votre semaine, elle a été difficile. Vous avez du mal à croire tout ça. Ça rentre dans votre tête, mais ça pénètre pas votre âme. Et il faut, comme on l'a dit, que votre esprit prenne autorité sur votre âme et que votre esprit prenne autorité sur votre corps. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. On se comprend, pour que l'incrédulité soit effacée. Pour que toutes ces choses qui sont humaines s'écartent et laissent la place à Dieu. On suit. S'il faut que vous pleuriez devant Dieu, vous pleurez devant Dieu. Jusqu'à ce que votre âme entende et que votre foi démarre là. Ça marche ? Il n'y a pas de solution miracle, c'est à vous de faire le travail. Donc vous avez la seule volonté que Dieu vous donne. Vous n'avez pas décidé qui vous êtes. La seule volonté, c'est de venir vers lui. Vous avez cette volonté de dire « Seigneur, je viens vers toi maintenant ». Et je m'attends à toi, je me saisis d'une promesse et je veux la voir s'accomplir. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père qu'il vous donne un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. 3e point. Donc là, on conclut. On a eu Sandy qui nous a parlé de toutes ces choses que Dieu nous a données, à nous d'aller les chercher. Et là, j'appuie vraiment ça. Et cette dernière chose, je vous parlerai de la prêche que vous avez eue il y a 2 semaines. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et il vous a été prêché, on n'était pas là, mais j'ai entendu que on doit commencer à pénétrer dans l'eau jusqu'aux chevilles, jusque là, jusqu'à nager, dans la plénitude du Saint-Esprit. Et on est appelé à vivre la plénitude du Saint-Esprit à chaque minute de notre vie. Est-ce que c'est vrai, Jenny? Tu vas trouver une lampe. Et on a besoin de s'attendre à Dieu, vraiment. Ça marche? Donc la conclusion, c'est que on a une identité. Nous sommes enfants de Dieu. Je veux vraiment que vous le gardiez. Ça ne doit pas être dans votre tête. Vous êtes enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu se saisit des promesses de son père. Papa, qu'est-ce que tu m'as promis? Certaines personnes d'entre vous ont eu des pères qui ne tenaient pas leur parole. Certains d'entre vous n'ont pas eu de père. Certains d'entre vous voient Dieu comme leur propre père. Moi, j'ai croisé des gens, leur père n'a jamais tenu une seule parole de ce qu'il leur a dit. Et du coup, ils voient Dieu comme ce Dieu-là. Et ils n'arrivent pas à s'approprier les promesses de Dieu. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être déçus de la même manière qu'ils ont été déçus par leur père charnel. Mais notre Père au ciel a dit qu'il nous aimait. On était dans son plan. Il nous a voulu comme on est. Et il veut vivre avec nous. Et il veut qu'on fasse les mêmes œuvres que lui. Il veut qu'on croie en ses promesses pour pouvoir entrer dans les mêmes œuvres que lui et pour ensuite rentrer dans cette plénitude du Saint-Esprit. Parce que les promesses de Dieu fonctionnent avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu en action. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il ne se passe rien. Il ne se passe strictement rien. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu en action dans ta vie, autour de toi. Et les promesses de Dieu suscitent ta foi pour que l'Esprit de Dieu agisse. Encore une fois, ce n'est pas nous qui agissons. C'est juste notre foi, parce que Dieu a juste fait le choix de nous utiliser. Alors ce matin, tu ne t'appartiens pas. Tout ce que tu fais ne t'appartient pas. Laisse Dieu. Mais Dieu t'appartient. Laisse-le gérer tes problèmes. Laisse-le gérer tes finances. Laisse-le gérer ton travail. Laisse-le gérer tes déceptions. Laisse-le gérer tout ça. Occupe-toi de lui. Dans tes 90% de temps, prends du temps pour lui. Hein, Poussin? C'est important. C'est important. Alors, Paul, est-ce que tu peux venir ici? Je vais demander quelque chose de nouveau. Alors, tu vas jouer à la guitare, Paul. Des petits comme ça. Et nous, on va juste se remettre devant Dieu. Et ce que vous avez entendu, pensez à la prédication de Sandy. Ce qu'elle a dit, on va reprendre un vêtement ce matin. On va s'abandonner à Dieu, encore une fois. Des fois, il y en a.